Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Venez discuter, venez débattre avec les grandes gueules. Venez jouer aussi si vous aimez le foot et la Ligue des Champions. Venez jouer avec nous et tentez de gagner l'expérience RMC, la visite des studios RMC, le match Paris Saint-Germain-Barcelone le 10 avril prochain et le débrief du match avec l'équipe de l'After Foot avec Riolo et Bribois. Pour ça, dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, eh bien, vous avez 5 minutes pour m'envoyer PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16. Vous aimez le foot, votre rêve, c'est de voir un match de la Ligue des Champions. C'est pas n'importe lequel. C'est le quart de finale. C'est PSG-Barcelone. Ça se tente, PSG par SMS au 732-16. On enchaîne avec nos nouveaux sujets de discussion.
RMC, les grandes gueules.
Nouveau sujet de discussion avec Bruno Pomard, Barbara Lefebvre, avec Frédéric Farin à propos de ces centaines de lycéens qui ont reçu des menaces de décapitation, de voir leur établissement exploser. Ces menaces qui sont arrivées via ce que l'on appelle les ENT.
Oui, l'espace numérique de travail. Oui, en fait, c'est un espace que tous les parents d'élèves, les élèves que connaissent, les profs également, pour les collégiens, les lycéens. Et donc, il y a eu ce message avec une vidéo qui, semble-t-il, est insoutenable. Et depuis, donc, la sécurité a été renforcée ce matin dans cette quarantaine de lycées et de collèges de France après ces menaces d'attentat, décapitation qui ont été reçues hier soir. Il y a même des élèves, nous dit-on, qui ne sont pas allés en cours aujourd'hui pour pas prendre de risques. Alors, il y avait quoi dans ce courrier? L'auteur dit agir au nom de l'État islamique. Jeudi 21 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier vers 11-15 heures et je décapiterai tous vos corps de koufars pour servir Allah le Tout-Puissant qui règne sur le monde. Voilà ce qu'on peut lire dans le message adressé donc à ces lycéens et ces collégiens. Dans ce message, il est notamment stipulé que du C4, c'est un explosif, a été mis partout dans les locaux et les classes. J'espère que vos corps de koufars vont vous exploser. Bon, c'est écrit comme ça, hein. En 1000 morceaux, je ramènerai mes chiens pour venir vous déchiqueter, bande de mécréants. Une menace qui ne semble pas tellement sérieuse selon les enquêteurs, mais bon, elle pose tout d'abord la question du piratage de cet espace numérique, des images envoyées, de la peur forcément qu'on provoque chez les élèves et leurs parents et les professeurs de l'établissement. Donc il va falloir quand même essayer de savoir d'où ça vient, retrouver l'auteur de ce message, même si c'est un petit plaisantin, mais dans le contexte actuel de professeurs qui sont visés et parfois tués et de menaces terroristes, oui. C'est assez effrayant.
Alors, je viens de recevoir un SMS de Joël Dagosséry.
Tout à fait.
Notre GG, sa fille a reçu le message. Et donc, elle a préféré garder sa fille à la maison. On est en train de l'appeler. Elle va nous raconter ça. Barbara, est-ce qu'autour de toi, tu as eu de le message
Oui, apparemment, des gens ont reçu le message. Enfin, leurs enfants ont reçu le message dans des lycées. Mais je sais que pour certains, on va nous dire oui, c'est un canular. Comme il y a eu tellement d'alertes à la bombe là au premier trimestre de l'année en fin 2023, il y a eu énormément d'alertes à la bombe. Mais même si c'est un canular, la couleur du canular, on va dire, l'ambiance du canular en dit long sur ce qui aujourd'hui
fait peur aux gens.
Est l'instrument de la peur et l'instrument de la terreur. Une fois encore, même si, et on l'espère, c'est un canular, ça peut être aussi un acte de piratage venu de l'étranger. Ça peut aussi, oui, tout sûr, aussi bien l'être, étant donné qu'on en subit énormément, les établissements scolaires, les hôpitaux, la police, la Pôle emploi, bref. Donc, je suis quand même assez étonnée de la qualité orthographique et syntaxique du message, puisque je l'ai regardé C'est pas écrit avec les pieds, hein. Donc, bon, il y a effectivement une petite faute de frappe sur, que tu as relevée. Mais sinon, dans l'ensemble, les accords sont bien faits. Donc, ça, déjà, si c'est un élève qui fait un canular, il écrit bien.
Il aura une bonne note.
Oui, il aura une bonne note.
Il sera corrigé vite par Barbara.
Et voilà. Et encore une fois.
Ce qui sera quand même très important.
Oui, mais je corrige aussi très vite ceux qui écrivent avec leurs pieds parce que de toute façon, comme
oui, j'aurais
pas
à dire. Oui, donc toi, tu vois pas mais, ça, tu penses non, que c'est pas un lycéen qui avait ça.
Déjà, on a oui. pas encore vu, les attentats que nous avons subis dans les établissements scolaires n'ont jamais été, précédés d'une annonce tonitruante de ce type. Donc oui, bien sûr, je pense que c'est un piratage. Ou un don de hacker étranger éventuellement, ou un canular. Mais ceci étant, ce qui m'interroge, et je reviens là-dessus, c'est une fois encore le ressort de l'islamisme pour nous terrifier parce que nous n'en avons pas fini avec ce fléau de toute façon.
Joël est avec nous. Bonjour Joël d'Agosséry, notre GG.
Oui, bonjour les GG.
Alors explique-nous Joël, comment ça s'est passé, à quel moment ta fille a reçu le message, comment vous avez discuté, dis-moi tout.
Alors... Elle l'a pas reçu parce qu'en fait chez certains parents ce sont les parents et les élèves et certains c'est que les parents. Donc moi il y a que moi qui l'ai reçu. Elle l'a pas reçu. Bon, elle est sur un groupe WhatsApp avec les autres élèves donc ils se sont passés le message pour ceux qui l'avaient reçu en tout cas. En fait moi je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu ce matin parce que ce matin en fait j'ai essayé de l'aider à réviser son. Elle avait une évaluation. Elle en a trois aujourd'hui. C'est en allant sur mon portable que j'ai vu plein de messages des parents. Et donc, je suis allée aussi sur l'ENT. Effectivement, j'avais reçu un mail avec Assalamu alaikum, nous venons de la part de l'État islamique. Voilà, je vous écris ce message pour vous. Je l'ai devant les yeux là. Donc, je vous écris ce message pour vous annoncer ma décision. Je suis enfin décidé de mener mon projet à bout. Enfin, voilà. Avec plein de menaces d'explosifs, de coups phares, etc. Donc, on est plusieurs parents à avoir décidé de garder nos enfants. Je ne sais pas si tous les parents l'ont fait.
Ah oui, t'as dit à ta fille, pas d'école aujourd'hui.
Ouais, non. Honnêtement, au début, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai dit canular, non. Mais après, en fait, on s'est un peu concerté avec les parents et on s'est dit, c'est pas parce qu'il y a trois évaluations et journées d'école qu'on va se mettre en danger. Donc, on a gardé les enfants. Mais l'école a maintenu les cours. Donc voilà. Et ils ont dit que la police était passée, mais on n'est pas sûr. Il y a plusieurs parents qui ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas la police dedans. Enfin, voilà, on n'est pas hyper.
Ça interroge quand même Joël sur la sécurisation de ces sites. Hein. On parle chaque jour de sites publics qui sont piratés. On parlait de France Travail hier, la Sécu l'a été. Là, c'est donc cet espace numérique dédié aux parents et aux élèves. D'ailleurs, il y a Valérie Pécresse qui vient de tweeter « Cyberattaque et cybermenace terroriste sur les lycées d'Île-de-France », puisque je rappelle que c'est la région qui s'occupe des lycées. La région a saisi la police et la justice. Les brigades régionales de sécurité sont sur site pour aider à la levée de doutes et la sécurisation des sites. Je souhaite que les auteurs soient rapidement trouvés.
Plus, Olivier, il faut quand même rassurer les gens qui nous écoutent. Tu sais qu'il y a un dispositif qui appartient à la PJ, à la direction centrale de la PJ, qui s'appelle Pharos, où il y a quand même une trentaine d'effectifs.
De signalement.
Il y a une trentaine d'effectifs qui travaillent 24 heures sur 24 à tous ces signalements. Je peux vous assurer que ils sont sur les charbons ardents actuellement.
Ah ben, ça fait 5 mois qu'ils sont très occupés sur. Ah,
ils sont très occupés. Il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de signalements. Donc, faire du discernement parmi ces signalements. Celui-ci fait partie des choses importantes à traiter. Mais encore une fois, ne pensons pas non plus que la police ne fait
rien. Vas-y, Joël, tu voulais ajouter quelque chose.
Après, ça fait un moment qu'on est un peu sous surveillance, en fait, depuis le 7 octobre. Mais jusqu'ici, on avait toujours envoyé les enfants à l'école. Enfin voilà, nous assurait que tout était fait, les conditions de sécurité, etc. Donc on a, il n'y a eu pas de problème. On a toujours envoyé les enfants à l'école. Mais là, sur le coup, non. Enfin moi, je me vois pas, je l'emmènerai pas. Et puis si demain on m'assure pas qu'il y a des conditions de sécurité, ce sera pareil, quoi.
Mais ça veut dire quoi si on t'assure pas qu'il y a des conditions de sécurité?
Il faudrait qu'on soit sûr qu'effectivement il y a une présence policière, parce qu'en fait, ce qui pose question, c'est la présence policière. Ils nous ont dit que la police était passée devant l'école.
Mais c'est ce que dit le ministère en disant que la police devait passer devant les établissements.
Oui, mais Joël,
Joël ne pense pas quand même que la police.
Si c'est tous les établissements scolaires, on peut pas poser
la police va se poser devant l'établissement.
Alors, selon
c'est pas concrètement possible, mais en tant que parent,
J'entends bien.
Alors, selon le ministère de l'Éducation nationale, c'est pas une quarantaine, mais une vingtaine d'établissements qui ont été touchés par ce piratage, et uniquement en Île-de-France. Mais la question de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait avoir accès à cet espace numérique, un parent d'élève ou un prof.
L'enquête va le déterminer.
Voilà. Ouais, ou ça, est-ce ça que c'est un vrai piratage.
Ils vont rapidement le retrouver.
Non, ce que je veux dire, c'est que là, Olivier dit si c'est un parent d'élève ou un élève. Oui. Alors ça va être vite trouvé. Après, si c'est un hacker qui est à l'autre bout du monde, non.
Attention, s'il y a un travail de coordination internationale, il y a le pôle judiciaire de Pharos qui travaille sur ces sujets. Je pense que les policiers doivent travailler avec acharnement sur le sujet.
Les piratages de données, on pensait que c'était des hackers russes qui étaient installés au Soudan. En France, finalement, c'est trois jeunes qui avaient réussi via un système, tu sais, de messages erronés, phishing, qui avait été ouvert. Derrière, ça a été la porte d'entrée.
Bien sûr. Pour aujourd'hui, en termes de sécurité, sur les 20 établissements, effectivement, il y a une police renforcée. Mais encore une fois, et Joël, il faut la rassurer aussi, mais en même temps, des patrouilles volantes, comme on dit, on ne peut pas faire autre chose que ça.
Non. Frédéric.
Je pense qu'il faut faire attention à l'emballement. Je pense qu'effectivement, derrière ça, c'est même pas forcément l'État islamique ou quoi que ce soit. C'est peut-être une couverture pour autre chose. Effectivement, ça peut être des hackers étrangers. Nos administrations, très régulièrement ces derniers temps, ont été piratées ou attaquées. Donc, je pense que... Vous vous souvenez aussi... quand il y a eu, depuis le 7 octobre, il y a eu sur des murs de Paris, avaient été mises des étoiles de David, je crois, et d'autres. Et on s'est dit, mais d'où ça vient? Finalement, on s'était rendu compte que ça avait été piloté.
Bien sûr. C'est un couple de Moldaves qui était payé par un russe.
Voilà. Ouais. Donc, et au départ, on avait dit, on avait pensé que c'était des personnes qui étaient venant du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ou qui étaient impliquées là-dedans. Puis finalement, on s'était dit ça. Puis finalement, on a découvert que ça n'avait rien à voir et qu'on avait jeté quelque chose qui était un leurre parce qu'en fait, c'était derrière les Russes. Donc je dis pas qu'il y a les Russes derrière ça, moi j'en sais rien, je suis pas la police, je suis
la
pas les
services d'enseignement. Si on...
Mais ça veut dire c'est la fragilité aussi de nos systèmes de protection.
Oui, il y a ça, il y a deux choses, et puis la punition, c'est-à-dire que si on retrouve l'auteur ou les auteurs, quelle sanction derrière? Est-ce que c'est dissuasif aussi?
C'est un délit grave,
c'est un délit grave, mais
il faut que l'enquête soit menée.
Parce que là quand même t'as fait paniquer tout le monde, regarde Joël qui a pas mis sa fille en Ukraine avant de panique.
Je te rappelle que les alertes à la bombe, notamment celle du château de Versailles. Il y en avait les trois quarts, c'était par le même gars. Mais il était fragile. Il était en situation précaire. Mais le pauvre, il vivait tout seul ou je sais pas quoi. Il vivait avec sa vieille mère. Non, mais c'est bon. Le gars, il a rien eu. Il a dû avoir peut-être une petite amende. Il a pas fait de prison, rien du tout. Alors qu'il a vidé le château de Versailles plusieurs fois, ça a coûté les yeux de la tête. Donc moi, je suis désolée. Ces gens-là, ensuite, pour certains, c'est toujours la fragilité psychologique. Et pour moi, tout ça, c'est de la
plus. Après, faut savoir si c'est pas des gens qui sont manipulés par des groupes.
Par ailleurs, canular ou pas, les enseignants, alors on va pas travailler forcément avec la peur au ventre, après ça dépend, il y en a, je sais qu'il y en a qui ont peur, bon, après ça dépend des caractères, personnellement, moi j'y vais pas avec la peur au ventre, parce que sinon j'irai pas, mais on part quand même tous, on va travailler avec l'appréhension. Moi, j'ai enseigné pendant 20 ans, depuis quelques années, je vais travailler avec de l'appréhension, parce qu'un élève, parce qu'un parent d'élève, parce qu'une intrusion. Donc, de toute façon, je vous le dis, canular, pas canular, message de couffard ou pas, on est tous quand même, on a le ventre un
donc,
peu tourné quand on va travailler.
Donc Joël, tant que tu n'as pas toutes les garanties nécessaires au niveau de la sécurité, ta fille, pas sûr qu'elle soit à l'école demain. Donc ça,
on a chargé les parents délégués.
Et les parents, il y en a beaucoup qui pensent comme toi.
On a un groupe WhatsApp là, des
de
parents.
Combien
on doit être une vingtaine.
Et les 20 comme toi n'ont pas envoyé les enfants?
Ouais, on a tous. Au début, on a commencé à hésiter, puis à la fin, on s'est dit non. En fait, on les envoie pas. On a essayé de voir si les profs pouvaient reporter les évaluations, donc qui étaient prévues aujourd'hui. On n'a pas encore des réponses. Mais en tout cas, ils ont maintenu le cours. Et ce que je tiens à dire, c'est que dans le message, en fait. C'est bien sûr que tu te dis que c'est un canular, mais en tant que parent, en fait, il est assez violent parce qu'il y a une partie qui dit voilà, j'espère que vos corps de couffards vont exploser en 1000 morceaux, je ramènerai mes chiens pour venir vous déchiqueter. Enfin, quand tu dis ça au réveil à 7 heures du matin,
t'as
pas du tout envie de te dire que c'est un canular et qu'on verra bien, quoi. Donc, moi, c'est non, on verra ce que les parents délégués ont pu avoir comme information, mais pour l'instant, elle reste là. Ouais.
Ok Joël, merci d'avoir été avec nous. Merci Joël, merci Catherine. Donc Joël qui a vu ce message.
Et je profite juste de l'occasion pour rappeler que la sœur de Samuel Paty a l'intention de faire en sorte que l'État reconnaisse sa responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty, notre collègue, et en tout cas moi à titre personnel, et je sais qu'il y a d'autres enseignants, on soutient sa démarche parce que l'éducation nationale, l'institution n'a pas été aux côtés de notre collègue dans les difficultés qu'il traversait, hormis sa principale qui a fait ce qu'elle a pu, mais certains de ses collègues l'ont enfoncé, et ça on l'oubliera pas, et l'inspection aussi, et ça on l'oubliera pas.
Ouais, ça n'a pas fait quand même de vagues, hein, entre nous. Ça n'a pas fait de vagues cette affaire en fait.
Bah non, ça n'a pas fait de vague parce que justement.
Il n'y a pas eu de profs virés ou bien mis à pied.
Non, parce que certains profs après ont prétendu que non, mais c'était pas ça. Mais bien sûr que certains collègues l'ont enfoncé.
Allez, dans un instant, les piscines. 140 000 piscines non déclarées. Les Français grugent sur la piscine, mais l'intelligence artificielle et le fisc sont là pour les rattraper. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules qui, tout à l'heure, ont parlé du service militaire aussi avec, est-ce qu'il faut le rétablir ou non? Au moment où on entend les tambours de la guerre qui commencent à tonner. Est-ce qu'il faut le rétablir, le service militaire? Oui pour Barbara et Bruno, non pour Frédéric et Olivier. Venez en discuter tout à l'heure avec nous au 32-16 et je vous citerai une phrase du général Vincent Desportes et je vous la garde, je vous la mets de côté. Ce sera tout à l'heure au moment du lancement du GG 7 et match.
Fils et filles.
En attendant, tu prends photo l'écran, toi.
Oui, parce que j'avais ma tronche dessus.
Alors, si vous voulez, remettons
la photo.
Ah, le narcissisme.
Remettez le GG 7 et match.
Je pense qu'il faut lui envoyer Soizic de la Moissonnière.
Non, mais. Il faut reconnaître qu'il est pas mal, Pomard, là.
Et oui, non, mais.
Soizic de la Moissonnière.
Mais non, avec toi, Pomard.
N'oublie pas de la mettre en noir et blanc.
Je me connais, je me regarde dans la glace.
En revanche, c'est bizarre parce que la photo de Frédéric est floue.
Ouais.
Mais c'est qu'un loup, hein.
Voilà.
Bon, allez, en attendant, parlons des piscines.
RMC, les grandes gueules.
À la piscine, quand on nage comme des sardines. À la piscine.
Ah, on sent là, on sent que c'est au bout musical. Ça, on sent que là, ça
pique. Piscine et zouk. C'est mon truc.
C'est pas du zouk.
C'est quoi ça?
Mais non.
C'est quoi ça?
C'est pas du zouk.
Mais c'est pas du zouk ça.
C'est quoi? C'est n'importe quoi.
Bravo.
Je te dis c'est quoi?
Ah je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du zouk.
C'est n'importe quoi.
C'est une espèce de musique à la queue leu-leu, genre Bézu, la danse des canards. Il parlait en créole. C'était pas en
créole.
Bon. Essayez de trouver tout à l'heure un bon morceau de zouk pour Barbara qu'on puisse explication sur le zouk. Gabriel Attal, le premier ministre, s'est réjoui qu'on soit dans un plan de retour de l'argent de la fraude fiscale qui permet de récupérer 15 milliards d'euros. Mais dans cette lutte contre la fraude fiscale, on a découvert que les Français étaient champions de la fraude à la piscine.
Oui, bah sachez que l'État est surendetté. Donc, amis citoyens français, sachez que l'administration du fisc ne va pas nous lâcher. D'ailleurs, c'est sans doute l'administration qui fonctionne le mieux en France. On parle régulièrement de l'hôpital, de l'école, de la justice. On se plaint rarement du fisc, hein. Ça marche bien. Et la preuve en est, c'est 140 000 piscines non déclarées qui ont été recensées par les services de M. Thomas Cazenave. Qui est Thomas Cazenave? Eh bien, c'est le ministre des Comptes Publics qui gagne à être connu et qui a donc réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à récolter 40 millions d'euros de taxes foncières. Il a récupéré 40 millions d'euros de taxes foncières puisque la piscine, ça se déclare au moment de la taxe foncière. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas fini. Et puis, on voit que c'est en progression. L'année dernière, c'était 120 000. Là, c'est 140 000. Dans un pays où il y a une passion piscine, la France, c'est l'un des pays où il y a le plus de piscines par habitant. Oui. Et pas seulement dans le sud de la France. Alors, c'est pas parfois des piscines très grandes. C'est souvent des piscines hors sol. Mais les piscines hors sol, il faut aussi les déclarer.
Ah bon?
Oui, maintenant, oui.
Et oui, ah bon, ben voilà. Barbara n'a pas déclaré sa piscine.
Elle a pas déclaré.
Donc, elle fera partie
elle est
des
en retard.
141 000 l'année prochaine.
Elle est en retard. Alors, elle procrastine.
Alors, est-ce que ça vous épate, ça vous bluffe ce chiffre de 140 000 piscines non déclarées?
Et faut préciser, je voulais simplement préciser.
Mais ça doit être beaucoup de piscines hors sol.
Quand tu n'as pas déclaré, donc après, tu payes la taxe foncière, mais tu as une amende aussi. Une amende qui va de 150 à 1 200 euros.
Mais je te parie vraiment que c'est beaucoup les piscines hors sol. Parce qu'une piscine. creusé par un spécialiste, un pisciniste qui vient, ça tu peux pas faire ça au black, hein, donc t'es bien obligé de déclarer. Le type il déclare. Ah bon?
Tu rigoles quoi? Oui, oh, oui,
bah, rien, tout moi, est possible. Je connais pas cette histoire de piscine. À mon avis, c'est beaucoup. Chantier. À mon avis, c'est beaucoup de piscine hors sol.
Alors, oui, moi,
que t'as fait toi-même.
Donc, excusez-moi, la piscine hors sol, à mon avis, c'est. Je veux pas être méchante, hein, mais à mon avis, c'est la petite classe moyenne, voire les classes populaires.
On s'en fout, il faut qu'ils payent.
Attends, qui ne peuvent pas partir en vacances pour beaucoup.
Oui, changer la voiture.
Qui dans le Nord-Pas-de-Calais ont mis dans le jardin la piscine hors sol. Venir à eux leur de... je n'ai les pas de problème hein, mais enfin venir à eux leur réclamer les 150
richesse,
balles de taxes foncières. Oui, mais il part pas en vacances. C'est pas comme le gars qui a une villa. Alors, et qui a sa piscine de je sais pas combien et qui la paye pas.
Et puis en plus avec les périodes de canicule d'avoir un point d'eau, c'est pas mal. Bref.
Oui, oh, les hélicoptères ils vont pas venir te prendre l'eau de la piscine.
J'aimerais bien
avoir un point d'eau, c'est pas mal.
Moi je voudrais savoir quel type de piscine ont été particulièrement redressées, et je suis navrée si c'est la piscine de l'ouvrier qui ne peut pas partir en vacances et qui pour ses enfants l'été a mis un petit truc dans le jardin. Je trouve ça un peu moins grave que la piscine dans la villa dans le sud de la France, alors que t'es à 50 mètres de la mer Méditerranée, qui est quand même la plus belle mer du monde.
Sur le principe, écoute-moi, d'abord c'est pas la première année, hein, ça dure depuis au moins. Moi j'avais eu, une note de préfecture qui arrivait à ma mairie, hein, évidemment, qui me demandait de répertorier les piscines, etc. Et puis quelques temps après, on m'a envoyé une autre note, comme quoi on avait vu, donc je suppose que c'était par des satellites ou par des drones, etc.
Drone.
Les piscines qui n'étaient pas déclarées dans mon village. Figurez-vous que la mienne n'était pas déclarée.
Ça l'a foutu. C'est pas vrai.
Mais oui, mais parce que je savais pas. Parce que quand tu fais une déclaration,
il est maire.
Bah
ouais. Il est maire. Bah bravo.
C'est une piscine olympique.
Ma piscine olympique.
Il a un plongeoir à 7 mètres, Bruno. On l'appelle le Nono la bombe aussi. Nono la savate et Nono la bombe.
Ouais. Et tu vois, quand j'ai fait ma piscine olympique, non.
Elle fait combien de mètres?
100 mètres. Dire,
c'est pas correct, ça se dit pas à l'antenne. Ah, non, elle doit faire 10 ou 11 mètres. 11 mètres.
Classique. Oui, c'est une
oui elle, bon, elle est normale, disons. Allez. Une piscine de riche, disons.
Et tout à l'heure, tu parles sur les questions des voitures.
Alors, j'avais déclaré à la mairie, parce que j'ai fait une demande de travaux, évidemment, donc à ma mairie, mais je n'avais pas déclaré aux impôts. Et je vois mon nom arriver, j'ai dit, ah, t'es, il y a un qui n'a pas déclaré. Puis d'un coup, je vois mon nom, je dis, merde, je fais partie de ceux qui n'ont pas déclaré. Donc effectivement, j'ai régularisé. Rien du tout. Enfin, je crois que c'était 150 ou 200 euros.
L'impôt piscine est établi à partir d'une taxation forfaitaire bien spécifique. La surface taxable de la piscine correspond à la superficie de votre piscine. La valeur forfaitaire au mètre carré en 2023 est de 250 euros par mètre carré pour l'ensemble du territoire français.
Mais je vous dis, à mon avis, je ne savais même pas, j'ai pas de piscine de toute façon, mais je savais même pas que les hors-sol, ça devait se déclarer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dessus qui sont des gens honnêtes, qui se doutaient même pas que leur espèce de bassine dans laquelle ils peuvent à peine
se déclarer. Parce qu'il y a une
subtilité. Tu sais que l'abri de jardin est taxé en France.
Oui, tout à fait.
Tu sais, non, mais ce pays est formidable. Oui, l'abri de jardin est taxé.
C'est moins de un certain nombre de mètres carrés, je crois.
Oui, même si tu fais des toilettes sèches dans ton jardin.
Il y a beaucoup de Français qui le savent pas, qui ne déclarent pas de bonne foi
dans ton jardin.
Parce que les subtilités, il faut connaître les subtilités du code des impôts.
Française.
Si la piscine hors sol est fixée au sol et installée durablement, elle entre dans le mode de calcul des taxes. Parce qu'elle est considérée comme un bâtiment annexe et elle a donc un impact direct dans le calcul de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière. Mais donc, si c'est une piscine hors sol, mais quand
tu la vides démontes.
Et tu la démontes, ah ben non.
Ah, d'accord.
C'est un peu comme les bengalos et compagnie, ça doit être amovible, les caravanes, pareil.
Quand on y réfléchit, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que si on doit à chaque instant se dire bon, chéri, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis en train de lire le code fiscal, là, les impôts. Je suis à l'article L352-12 pour savoir si on a mis la vis, on n'a pas mis la vis. Non, mais on s'en sort plus, quoi. Je veux dire, ça devient complètement dingue.
On a une des fiscalités les plus complexes au monde.
C'est-à-dire,
des spécialistes, hein.
Non, mais. C'est comme
même ceux qui créent tout ça ne connaissent pas exactement l'intégralité du code de la fiscalité.
Non, mais
du code
des impôts. On peut rajouter toujours à ça, dans cet enfer fiscal, la super taxe d'habitation pour les résidents secondaires aussi.
Oui.
Ah, je veux dire, parce que d'un côté, on a dit les taxes d'habitation, c'est fini, les amis, mais de l'autre côté, on a dit
une
super taxe d'habitation. Et viens ici que tu es en résidence secondaire, paf, et que je te tape sur la tête. Bon. Et là, il faudrait qu'un individu, qui dans sa vie de tous les jours, qui a peut-être femme et enfant, qui a peut-être, s'arrête, se dit, alors, ça se monte, ça se démonte, ça rentre dans la surface, ça n'arrête pas dans la surface. Ouais. Et le type, il a pas
c'est
le
temps. C'est les subtilités,
etc. Et ensuite, un jour, il voit un drone au-dessus de sa piscine, mais c'est bizarre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe.
On voit aussi que l'intelligence artificielle va permettre de récupérer
récupérer.
Après, dans le cadre,
mais tellement on est en train de gratter des fonds de tiroir que ça devient pathétique.
Dans le cadre quand même de ces recouvrements, on doit quand même saluer, par exemple, le fait que le fisc ait recouvré 400 millions d'euros sur les fraudes aux allocations sociales. Ouais. Ça, c'est important aussi.
Oui, mais la fraude fiscale est supérieure à la fraude sociale.
Mais la fraude fiscale, ben, j'allais y venir, mais la fraude fiscale, qu'est-ce qu'on fait contre tous nos fraudeurs fiscaux?
On a récupéré qui, eux, par 2 milliards.
Hein. Ils récupèrent par contre, quand même.
15 milliards, je crois, non?
Oui, mais regarde,
c'est
excuse-moi.
C'est l'objectif de 15 milliards.
Depuis 2019, je crois, ou 2017, où on a légalisé les aviseurs fiscaux, c'est-à-dire les gens qui vont venir dénoncer les très, très grosses arnaques fiscales, on n'en a que 9. Alors je vais vous dire, 9 aviseurs fiscaux en l'espace de 7 ans, ça fait pas lourd. Alors qu'il y en a quand même beaucoup qui font de l'évasion fiscale. Et je continue à dire qu'il y a des éléments d'optimisation fiscale qui sont de la fraude.
On va aller à Nîmes dans le Gard dans un instant écouter Émilie. Mais je voudrais juste vous rappeler, parce que ça, c'est, parmi les bonnes nouvelles, je vous ai déjà expliqué là, la fiscalité sur les piscines.
Je l'ai bien expliqué.
Bien, merci.
On l'a bien compris.
La taxe d'aménagement qui concerne les abris de jardin, mais aussi les vérandas ou encore les piscines.
La véranda, c'est
attention,
vrai,
écoutez
c'est
bien, grimpe en 2024.
Ah,
la valeur qui sert de base au calcul a été revalorisée de 3,4%.
Ah, bah, comme l'inflation.
Après une hausse de 8% en 2023 et une hausse de 7% en 2022.
Et après, on nous explique que l'argent que l'État n'a plus d'argent.
Eh oui.
Et pourtant, il en récolte de plus en plus. Donc, on récolte de plus en plus d'argent et on en a de moins en moins.
Ça, ça ne mettra pas les gilets jaunes dans la rue, hein, la taxe sur les piscines.
Allez, on va aller voir Émilie. Bonjour, Émilie.
Oui, bonjour.
Alors, Émilie, qu'est-ce que vous pensez là, de ces 140 000 piscines non déclarées?
Alors, je pense, comme Barbara, que ça va être plutôt des piscines hors sol, tout simplement parce que là, on a vraiment un flou juridique par rapport à ça.
Vous êtes pisciniste, vous. Oui.
Voilà, moi, je suis pisciniste donc, dans le Gard depuis 10 ans et on est dans l'obligation de faire les déclarations préalables auprès des mairies. Mmh. Et, logiquement, on est dans l'obligation de vérifier qu'elle est accordée. Voilà. Maintenant, d'accord, vous avez les piscines de moins de 10 mètres carrés qui ne sont pas déclarables, ou en tout cas pas pour le moment, et les piscines hors sol qui ne sont pas déclarables non plus, même si elles font que 10 mètres carrés. Le problème, c'est que si elles restent à l'année, elles devraient être fiscalisées normalement.
Oui,
celles
qui ne sont pas démontées doivent être fiscalisées, c'est ça?
Oui. Celles qui ne sont pas démontées, normalement, doivent être fiscalisées. Mais comme ça reste une piscine hors sol, est-ce qu'on la déclare ou est-ce qu'on la déclare pas?
Bah, ça dépend si vous mettez une vis ou pas. Oui, vous avez raison. Après, c'est le
dilemme. Non, mais
Émilie, vous avez, est-ce que vous avez construit beaucoup de piscines ces temps-ci ou pas?
Oui, nous, ça fonctionne bien dans le sud, il n'y a pas de problème.
Ah oui. Tant mieux, donc c'est un bon business.
Il y a quand même, les Français ont une passion pour la piscine, hein. Comment vous l'expliquez?
Ah ben, c'est un luxe qu'on peut se permettre parce que ça reste encore, je mets des guillemets, abordable. Surtout, bon, ben, dans des terrains comme chez nous, il n'y a pas de problème. Ça reste abordable et oui, effectivement, c'est toujours un petit luxe qu'on peut avoir à sa maison. En revanche, les piscines sont de plus en plus petites. Pardon. Ouais, avant, petite. On était plus sur du 8 par 4 et là, cette année, c'est du 6 par 3, voire des mètres carrés qui fonctionnent bien.
Ah oui, ouais. Émilie, restez avec nous parce que on a Erwan,
c'est pour se rafraîchir.
Erwan qui vient d'arriver, Erwan qui est viticulteur en Loire-Atlantique. Bonjour Erwan.
Oui, bonjour.
Et vous êtes tombé à la renverse, pourquoi Erwan?
Ben, en fait, je savais pas que ça allait être déclarable, c'est les piscines.
Ouais. Ben, vous en avez une?
Ben oui, j'en ai une.
On va envoyer votre numéro de téléphone au fisc, vous inquiétez pas.
Mais il n'y a pas de souci, Bruno,
Erwan, c'est une piscine hors sol?
Mais vis ou sans vis?
Elle fait combien?
Elle fait 1m20 par... c'est les piscines que tout le monde a, quoi.
C'est
à peu près 10 mètres carrés, quoi. Ouais,
10 mètres carrés. Émilie, qu'est-ce qu'il doit faire, Erwan?
Si elle fait moins de 10 mètres carrés, il n'y a pas de problème. De toute façon, elle n'est pas déclarable, puisque même les piscines en dur, moins de 10 mètres carrés, donc c'est la surface. Nous, on en pose beaucoup qui font 9,99 mètres carrés. Donc, je vais vous dire une piscine hors sol, moi, je dirais, on laisse tomber, quoi.
Vous avez entendu, Erwan?
Ben oui, mais c'est pour ça que quand j'ai réagi, parce que c'est ça que je disais, c'est ce que je comprenais pas. Hors sol, ça dépend. Nous à Nantes, des fois il fait beau, donc on la garde longtemps, mais des fois quand il fait pas beau, on la met au mois de juin et puis
vous la démontez.
Fin août, on la démonte.
Oui, mais vous ne payez pas d'impôts, c'est bon.
Oui, mais rassurez. Il y en a beaucoup, nous, par chez nous, elle reste sur place, elle reste sur place à l'année, quoi. Donc là, normalement, ça doit être déclarable.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est dingue parce que pourquoi elle reste sur place? Parce qu'en fait, c'est un peu la flemme aussi de la démonter.
C'est comme les mobilhommes, c'est exactement pareil. Bon, est-ce que c'est obligé de démonter?
Enfin, on est quand même dans un truc. Si tu démontes,
ben oui,
mais tu
payes pas. Non, ça nous montre bien que quand l'État veut, l'État peut.
Non, mais c'est simplement administratif, c'est ça.
Il sait traquer les piscines, mais par contre, traquer les grosses têtes de réseau de la drogue, ça, il sait pas les traquer.
Ah bah. Mais, on a attrapé un au Maroc.
Oui, au Maroc une fois, c'est tout.
La loi apparemment, elle dit qu'il faut qu'elle dure plus de 3 mois en place.
Oui.
Donc,
c'est limite, oui, juin, juillet, août, septembre, ouais, ça y est, 4 mois, boum.
Ouais, mais des fois, ça peut être 3 mois, en fait, c'est surtout ça que c'est une. Enfin, les lois, en fait, les piscines creusées, je suis d'accord. Mais bon, de toute façon, Gabriel, il faut qu'il trouve l'argent qui peut, hein.
Ah, ça, mon cher ami,
je peux vous dire, ça va pas s'arranger.
Ouais, on n'en est pas sorti.
L'état de la dette et des déficits. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à préciser que Bruno Le Maire sera face aux grandes gueules lundi, le ministre de l'économie et des finances. À un moment donné où il est, j'allais dire sur la sellette, non, mais il est en première ligne parce qu'il y a effectivement urgence à trouver de l'argent, à faire des économies. Les agences de notation nous guettent. Les déficits qui seront publiés officiellement, le déficit de la France est beaucoup plus important que prévu. Ça sera mardi d'ailleurs le chiffre.
Il vient
présenter Bruno Le Maire face aux grandes gueules avec son livre.
Ah oui.
D'ailleurs, il parle de ça. De la nécessité de réformer.
Comment il réglera tout en 2027 quand il sera président de la République?
Il faut un État qui protège, mais il faut en finir avec l'État providence.
Ouais, et les mains
quelle
de
originalité, mais quelle originalité.
On change le mot par un autre.
Alors, je remercie. Merci, Émilie. Merci, Erwan, d'avoir été avec nous.
Merci.
Bonne journée. Salut, Erwan. Et vous, framboisez pas pour votre ami de jardin.
Un petit bonjour à notre ami propagé, Didier.
Johnny Blanc.
Croisons-les là.
Oui, que l'on salue, que l'on embrasse, qui a eu des pépins de santé, qui nécessite sa rééducation et qu'on espère revoir.
Ouais, Erwan, laissez votre adresse à la prod, on va la transmettre.
Non, il risque rien.
Il n'y a pas de problème.
Non, je rigole.
Il risque rien s'il la démonte le 15 août.
Laissez finir, Erwan, allez-y.
Non, mais juste un truc. Et puis un grand bonjour à Jacques Maillot que j'adore et que j'aimerais revoir dans les GG.
Le président Maillot que l'on salue, que l'on embrasse.
J'espère qu'il a entendu.
Merci, Erwan. Merci, Émilie. Dans un instant, faut-il rétablir le service militaire? Oui ou non? On va vous lire la petite phrase du général Desportes qui nous a poussé à faire ce sujet, du général Vincent Desportes, et vous venez en parler avec nous au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Pomard et Barbara Lefebvre qui vont faire équipe. L'ancien instructeur du RAID et la prof d'histoire géo face à Olivier et à Frédéric Farah, le professeur d'économie.
Il va être un peu mieux.
RMC.
GG, 7 et match.
Morales, disparut au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, toi qui voulais battre tes records, à 20 ans déjà t'es mort.
Et son célèbre sketch sur le soldat Morales. Benuro qui revient sur scène d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on passe Benuro et qu'on parle de Morales? Parce qu'on va parler du service militaire. On a les deux équipes qui sont face à face. En termes d'effectifs, aujourd'hui, sachez que la France compte l'armée la plus importante de l'Union européenne avec 205 000 militaires de carrière, des professionnels, auxquels on peut ajouter 35 000 réservistes. Mais c'est vrai qu'on est dans un cycle en ce moment un peu trouble où on a la guerre à nos portes en Europe, guerre entre la Russie et l'Ukraine, et où le président de la République a lui-même évoqué, si la situation devait dégénérer, l'envoi potentiel de troupes au sol. Le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, déclare dans les colonnes du Point, mes respects mon général, la seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et filles de France. Ouais, voilà ce que dit le général Desportes.
Oh, enfin, attention, ça n'a pas à voir avec le service militaire.
Non.
Non, mais enfin, attention. Bref.
Attends.
Nous allons nous lancer.
Donc, aujourd'hui,
c'est notre jeunesse.
On entend quand même bon nombre de voix dire on ne peut pas uniquement se contenter d'une armée de métiers. Il faudra peut-être mobiliser. Pourquoi ne pas remettre en route la machine militaire française, dans du point de vue industriel que du point de vue humain? Et si on la remet en route du point de vue humain, eh bien il faut relancer la conscription, c'est-à-dire le service militaire. D'accord ou pas, Oui pour Barbara et Fred, non pour Olivier et Bruno, non pour Fred et Olivier. Barbara, t'as la minute.
La question du service militaire est une question importante. Il y a quelques années, je n'aurais peut-être pas pensé qu'il était nécessaire de reprendre un service militaire, mais un vrai service militaire, attention, je vais expliquer. Moi, je suis pas pour le service civique et tu vas faire le pion dans un collège et ça te fait service militaire. Je suis pour le retour du vrai service militaire, la conscription qui peut nous permettre d'avoir une armée de soldats citoyens, réservistes, qui peuvent être mobilisés le cas échéant. Compte tenu de l'augmentation des risques dans le monde, tu me rappelais d'ailleurs ce matin, Olivier, que dans le monde aujourd'hui, il y a plus d'États autoritaires que de démocratie. Donc la situation est telle que, à mon avis, à la fois l'expérience humaine, culturelle, patriotique, professionnelle et militaire de ce moment qu'est le service militaire peut être une occasion. C'est le creuset national. C'est là aussi qu'on a un rôle d'intégration sociale. J'ai en tête deux modèles qui peuvent nous permettre de nous servir pour reconstruire notre service militaire. C'est à la fois d'un côté le modèle sud-coréen qui fonctionne très bien avec une adaptation de la vie professionnelle et estudiantine, et le modèle israélien qui permet évidemment la mixité, car je suis pour que les femmes aillent se battre aussi.
Bravo Barbara, merci.
Réponse faite par A.
Je détaillerai ensuite.
Alors, l'objecteur de conscience, Frédéric Farah.
L'objecteur de conscience, j'étais gentil, je suis objecteur de conscience. Donc,
tu as fait ton service, Frédéric ?
Non, parce que je n'avais pas la nationalité française, donc je ne pouvais pas faire un bon service à l'époque. Donc, ce n'était pas possible. Donc, je ne l'ai pas fait. Et est-ce que j'en ai une nostalgie ? Je ne crois pas, ou je ne sais pas. Même si j'ai rien contre l'armée, vraiment absolument rien, même si tout le monde pense que je suis effectivement objecteur de conscience.
Je te posais la question parce que j'ai toujours remarqué dans les débats sur le service militaire que c'est ceux qui ne l'ont jamais fait qui en parlent le plus.
C'est vrai.
Oui. Évidemment. Non, mais c'est évident. Mais moi, mon point de vue, c'est pas du tout mon point de vue que je vais pour répondre à Barbara. C'est pas du tout une question de l'armée, c'est pas bien, l'armée, c'est pas gentil, et il faut pas faire ça, et le monde est rempli de bisounours. Non. C'est de se dire, regardez les faits de manière implacable. Brassage social. 1995, dans les derniers chiffres, puisque c'est arrêté en 96, 1 sur 5 était exempté. Bon.
Ah oui. Avec moi, il n'y aura pas d'exemple.
Donc voilà. D'autre part, attention aux bonnes idées, mais le diable est dans les détails. En fait, ça voudrait dire que chaque année, il faudrait entre 600 000 et 800 000 jeunes qu'il va falloir, qui vont être concernés et qu'il va falloir accueillir. Qu'observe-t-on de ça ? On observe que depuis 1995, les cessions immobilières de l'armée sont considérables, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accueillir de gens dans les casernes.
Il faudrait racheter
les
casernes.
Il faudrait racheter des casernes, il faudrait racheter, des terrains.
Mais ils en disposent beaucoup encore.
Et donc voilà. Mais visiblement dans les rapports, parce que comme je me suis plongé là-dedans, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, il y en a pas assez. Donc c'est un autre problème. D'autre part, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Avant qu'on forme quelqu'un au maniement des armes, que l'on les prépare sur le terrain, qu'il soit pas dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, qu'ils aient un sens tactique, stratégique, etc., ça demande du temps. Donc on n'aura pas le temps de faire. Et d'autre part, je lisais un rapport.
C'est 18 mois minimum.
Je lisais un rapport du Sénat qui montre que il y a une préoccupation en termes budgétaires par rapport à tout ce qu'on devrait faire comme effort pour l'armée en termes de matériel, de blindés et autres, qui fait que, à mon avis, le temps qu'on mette en œuvre cette mesure dans un cadre budgétaire aussi contraint, j'ai bien peur que l'objectif de brassage social, on peut le discuter. Deux, militairement, je suis pas sûr que ça soit tout de suite efficace. Et trois, tristement à dire, on n'a pas les moyens.
Non mais alors, écoute, il nous parle que de trucs logistiques, d'argent, etc. Il faut savoir déjà que il y a l'État fait voter. C'est le sénateur Christian Cambon qui est un ami au demeurant.
On l'embrasse.
A fait voter 413 milliards pour remettre à flot l'armée, parce que vous savez qu'on a
un service militaire.
Non, mais 413
milliards. Des armes, des.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a envie de remettre à flot.
Ce qui a été défait doit pouvoir être refait.
Bravo.
Dans une situation aussi tragique qui pourrait nous arriver.
Formidable.
Alors maintenant, si on part du principe qu'on a tout cassé, on peut plus reconstruire. Laissez tout tomber à ce moment-là.
Général Barbara, laissez-moi parler deux minutes.
Vas-y, Général
Lefebvre.
Tu citais.
Donc voilà, cet aspect matériel est en train de ressurgir et c'est important. Après, il y a ce problème au-delà de ce que tu dis, c'est l'appartenance à la nation. On a besoin que les gens se réapproprient la nation, soient citoyens. En Israël, les gens sont militaire quasiment 3 ans. Et il reste réserviste après.
32 mois pour les hommes, 24 mois pour les femmes.
Et t'as plein d'autres pays comme ça.
Réserviste jusqu'à 40 ans.
C'est quelque part une mission citoyenne que de devoir pouvoir répondre. Si un jour il y a une guerre, effectivement, avoir des réservistes en nombre, c'est une chose importante. Des professionnels, c'est essentiel. Il y en a 205 000, mais on pourrait en avoir beaucoup plus, à mon avis. Et on a besoin, dans une situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire la situation mondiale, de peut-être de guerre, ne l'espérons pas, mais on a besoin encore une fois de renforcer nos forces armées, et c'est un moyen de le faire.
Je voudrais juste réagir à ce que tu viens de dire. Le cas d'Israël est particulier. C'est un État qui est dans un environnement géopolitique comme la Corée du Sud. C'est un environnement où la guerre, c'est pas un truc théorique comme ça dans les esprits. C'est une réalité. Il vit dans un environnement qui lui est globalement hostile. Donc bon, bah évidemment, avec ils sont pas très nombreux. Donc évidemment, c'est on peut vital. Pas se permettre de chipoter en disant non, toi tu restes à la maison, toi tu restes pas. Bah, ils ont pas le choix. C'est-à-dire, ils sont dans un environnement qui les oblige à ça. La Corée, il n'y a qu'un armistice, il y a pas la paix avec Sudan. Face. Bon, je comprends bien. Bon, ça, c'est une chose. Alors, d'autre part.
On n'est pas dans cette situation.
On n'est pas dans cette situation. Et deuxièmement, deux choses là-dessus. Est-ce qu'il suffirait de remettre des individus pendant 10 ou 12 mois avec des uniformes pour se réapproprier le sens du collectif dans une société qui, depuis des années, a revu complètement le rapport entre l'individu et le collectif? Surtout qu'il y a une chose qui a changé considérablement. Toutes les générations qui sont nées à partir du baby-boom jusqu'aujourd'hui sont des générations spécifiques qui ont grandi avec le fait que d'un événement anthropologique majeur, que la guerre ne serait plus l'horizon des sociétés.
Oui,
bah ça,
mais on peut changer, Frédéric.
Oui, on peut changer.
Tu restes sur des schémas, c'est la théorie.
Non, mais en même temps, on ne transforme pas du jour au lendemain des individus en les mettant dans des casernes. Ouais. J'y crois pas.
Non, mais d'accord, je vais te dire une chose. On les transforme pas, t'es bien placé pour le savoir. On les transforme pas non plus avec l'éducation, parce que qu'ils ont le nez en permanence plongé dans les âneries des réseaux sociaux, même nous, on vide la mer à la petite cuillère. Donc autant, puisqu'on est si nombreux à vider la mer à la petite cuillère, c'est pas un mal si l'armée, qui a un certain savoir-faire, s'y met avec nous. Donc moi, je pense quand même.
Je peux poser une question. Je voulais savoir, vous voulez rétablir le service militaire, pourquoi? Pour en faire de bons citoyens,
non, des
comme
soldats
avant, ou des soldats pour mourir pour Kiev.
Mais les deux,
en faire une armée.
Pour les envoyer à Kiev,
regarde,
mourir.
Pas pour Kiev. Moi, je regarde plus loin que Kiev. Le général Desportes.
Le général Desportes, il dit il faut que le sang de nos enfants coule pour faire comprendre à Poutine.
Oui, mais la phrase de Desportes. Non, mais la phrase de Desportes, déjà, premièrement, elle veut rien dire, vu que s'il y a la guerre avec Poutine, d'après ce qu'on entend avec Macron, c'est dans 6 mois. C'est pas dans 6 mois qu'on va envoyer les enfants français se battre. Je regarde beaucoup plus loin, parce que moi je regarde à très long terme, et je pense qu'à très long terme, peut-être la Russie, mais peut-être demain la Chine et d'autres pays peuvent être des dangers pour
la géopolitique
nous, et
évolue,
on ne sait
évidemment.
Pas comment les plaques géostratégiques elles peuvent s'enclencher, et en un rien de temps on pourrait se retrouver dans une situation difficile. Encore une fois, l'armée, si je regarde l'armée sud-coréenne, parce que c'est pas la même chose que l'armée israélienne, c'est des soldats combattants, même les femmes sont combattantes, les femmes ne sont pas combattantes, mais les Sud-Coréens, ils ont 6 semaines de tronc commun où ils ont de l'histoire, de la géostratégie, etc. Et après, ils choisissent selon leur corps. Donc, c'est un certain nombre, sinon, si on fait du terrestre, du maritime ou de l'aérien. Et ils vont choisir plusieurs postes. Ça va du mécanicien au cuisinier. Si t'as 6 ans de médecine, parce que tu peux faire entre 18 ans et 30 ans. C'est-à-dire, tu peux commencer tes études. Et puis, à un moment donné, tu vas faire ton service. Et tu peux même donc faire ton service en ayant acquis un métier. Et donc, tu peux valoriser ton métier au sein de l'armée. Moi, je trouve qu'ils ont une structure en Corée du Sud qui est très intéressante. Qui n'est pas exactement la même que celle d'Israël, qui, effectivement, tu as raison, est un État combattant. D'ailleurs, je rappelle, le 9 octobre, même pas 48 heures, ils ont réussi à mobiliser 300 000 réservistes.
On va pas faire de l'armée.
Le modèle sud-coréen est un très bon modèle, dont nous devrions nous inspirer.
Oui, mais il faut rappeler pourquoi Jacques Chirac a supprimé le service national. Parce que à l'époque, on s'est dit qu'il fallait une armée de professionnels, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et alors peut-être qu'effectivement il faut augmenter les budgets de la défense, c'est ce qui est en train d'être fait, parce que on a sous-équipé notre armée, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a une menace directe en Europe, il faut donc de nouveau être plus performant. Mais on a supprimé parce qu'il fallait consacrer l'argent justement à la profilisation de nos armées. On dépensait, comme le dit Frédéric, beaucoup d'argent à accueillir une génération, c'est 600 à 800
gamins. Et ça avait du bon.
Qu'il faut accueillir, il faut des locaux, il faut les encadrer. Et moi, j'ai fait mon service militaire. Et mon service militaire, sincèrement, ne m'a servi à rien.
Mais évidemment, dans tes années-là, oui.
Ne m'a servi à rien. J'ai
mais dans les années 60-70, parce qu'il était mal fait dans une société qui était en train de se ramollir.
Où en est-on aujourd'hui, là, c'est la mi-temps. Où en est-on dans ce match? Est-ce qu'on rétablit le service militaire, oui ou non?
Oui, 80.
Est-ce que l'équipe qui dit oui est majoritaire? Est-ce l'équipe qui dit non parce que on ne veut pas remettre les enfants sous les drapeaux? Attention, on envoie le score à la mi-temps. Le service militaire à 68%.
On a pas sorti toutes nos cartouches.
Et on continue d'en parler au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.